Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, c'est Bruno, toujours sans Thomas. Meilleurs vœux pour 2026, j'enregistre le premier épisode de l'année. Avant de revenir sur tous les jeux auxquels j'ai joué en 2025, j'aurais aimé parler d'un jeu que j'ai fait en début d'année, là, pendant les premiers jours de janvier, et qui m'a intrigué parce que c'est toujours la complexité qu'on a quand on joue à un jeu qu'on apprécie, qu'on finit, ce qui aujourd'hui est assez rare, et mais dont on ne peut pas s'empêcher de voir les défauts au fur et à mesure. Comment retranscrire ça? C'est beaucoup plus facile de parler d'un jeu qui vous a emballé, au-delà de tout le monde, sur lequel vous ne voyez que des qualités, ou à contrario, un jeu sur lequel vous ne voyez que les défauts, c'est plus facile, mais avoir cette espèce de retranscrire un avis nuancé est à mon sens quelque chose de plus intéressant. C'est-à-dire que ça permet de voir effectivement ce qui dans le jeu vous plaît, vous déplaît, vous accroche, et ce qui fait la force d'un jeu, et surtout comparer par rapport à d'autres jeux du même genre qui eux n'ont pas ces défauts-là. Du coup, je vais vous parler de Souls of Midnight, qui est un jeu de Compulsion Game. Les gens qui avaient fait We Happy Few, entre autres, des jeux qui étaient passés un petit peu sous les radars à l'époque, pas des jeux extraordinaires, enfin qui avaient des qualités, autant de qualités que de défauts. Et là, on va parler de Souls of Midnight, donc qui est le dernier jeu du studio qui est sorti, je pense, en cours d'année 2025 sur toutes les plateformes. C'est édité par Microsoft. C'était jour 1 sur le Game Pass. Alors moi, je l'ai eu sur Steam en promotion. C'était pas un jeu marketé AAA et au prix. Je crois qu'il est à 40€ en prix standard sur Steam, ce qui prouve bien que même Microsoft ne pensait pas en faire un jeu. Comment dire, une pierre angulaire de leur catalogue. C'était un... Voilà. Mais on y reviendra. Pour vous décrire le type de jeu, on est vraiment sur du l'action plateforme troisième personne, vue de derrière, une caméra assez proche, avec des passages de plateforme, des scènes, des salles d'action, un peu d'énigmes, un peu d'exploration. On est vraiment dans cette veine, si vous voulez, pour prendre un spectre large avec lequel je vais comparer ce jeu-là. On va être de Uncharted à Prince of Persia, voilà. Uncharted pour le côté très phase d'action très distincte et très qui ne se mélange pas et qui s'enchaîne. Prince of Persia pour des passages de plateforme un peu plus acrobatiques, voilà, et des combats au corps à corps puisque il n'y a pas d'armes à distance dans ce jeu. On en vient donc à comment se déroule Souls of Midnight et qu'est-ce qu'il aborde. Souls of Midnight, donc c'est un jeu qui prend pour inspiration en gros tout ce qui est mythologie du Bayou aux États-Unis. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça c'est bien. C'est la première qualité du jeu, c'est-à-dire que son ambiance et son lore sont des choses qui sont très intéressantes. Graphiquement le jeu est magnifique aussi. Et ce qu'il vous propose, donc, c'est des petits passages où, en gros, vous commencez un niveau, vous avez une première phase d'exposition avec une petite cinématique, ensuite, un peu d'exploration, quelques dialogues avec des PNJ, pas toujours, mais souvent, toujours de l'exploration, des zones très marquées, combat, où, en gros, c'est une arène, à partir du moment où vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus en sortir, le combat est obligatoire, vous êtes obligé de gagner, ça vous permet de libérer cette zone-là, il y en a 3 ou 4 dans le niveau, qui sont pas bien durs à trouver, en général, il n'y en a pas vraiment de secrètes. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez une petite phase de course, où vous êtes pourchassé par une entité que vous ne voyez pas, pendant laquelle vous devez, en général, voir le nouveau pouvoir que vous venez de débloquer. Et à la fin de ça, vous avez un boss. Voilà. Et vous recommencez le chapitre d'après. Fondamentalement, c'est ça le jeu. L'exploration est relativement limitée dans le sens où, déjà, alors ça c'est un point positif pour moi, il n'y a pas de chasse aux collectibles. C'est pas un jeu qui vous met des amulettes cachées partout, des petits bonus dans tous les sens, non. C'est un jeu qui sait se restreindre, vous avez un peu d'exploration, vous allez pouvoir gagner, trouver des petits, comment ils appellent ça, des fils de la réalité, qui vous permettent d'augmenter vos stats, uniquement vos stats de combat. C'est-à-dire que c'est en gros, vous allez pouvoir augmenter un petit peu vos pouvoirs, leur donner des bonus supplémentaires. Même chose, c'est pas très dur. J'ai fini le jeu en ayant tout boosté et en ayant des points d'avance en permanence par rapport à ce que le jeu me permettait de débloquer. Et c'est jamais bien caché, enfin c'est jamais vraiment caché, mais ça vous demande quand même d'explorer un tout petit peu le niveau pour trouver des petits passages à droite à gauche. Et c'est un plaisir d'explorer ces niveaux-là, parce que j'en reviens encore une fois, le jeu a une ambiance graphique et sonore absolument phénoménale. On y reviendra plusieurs fois, parce que ça c'est vraiment la chose la plus marquante du jeu. Graphiquement, c'est absolument somptueux, le travail sur le son est remarquable aussi. La musique est extraordinaire, c'est signé Olivier de Rivière. Je l'ai fredonné tout le jeu sans savoir que c'était lui qui l'avait composé, en me disant mais incroyable ce qui tombe dans ce jeu-là. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Il n'y a jamais de challenge dans ces phases d'exploration. La plateforme est basique, c'est quasiment inratable. Là, on est vraiment sur du Uncharted, pas sur le côté Prince of Persia. Vous avez un chemin qui est balisé. Fondamentalement, des fois, le jeu vous amène sur une mauvaise piste et il faut rebrocher chemin pour trouver la bonne qu'ils avaient un tout petit peu cachée dans l'angle de vue. Mais ça s'arrête là en termes de challenge. On a quelques pouvoirs qui permettent de manipuler un petit peu l'environnement. Pour faire des petites énigmes environnementales, mais même chose, si vous avez joué à un TPS ces 20 dernières années, ça vous occupera pas plus de 3 neurones à la fois. On n'est pas là pour ça, mais c'est jamais désagréable. C'est-à-dire que c'est à la fois, le jeu arrive, à part 2-3 imprécisions peut-être, allez, on va dire, il y a un ou deux passages où j'ai un tout petit peu levé un sourcil en disant « Tiens, là j'aurais préféré que ce soit un peu plus fluide ». C'est un jeu qui ne m'a jamais frustré et qui m'a jamais énervé, soit par sa difficulté, soit pour son imprécision, soit pour son manque de clarté. Là-dessus, c'est remarquable, ça applique très bien la formule, on est vraiment dans des pantoufles, on se laisse guider, les niveaux sont enchanteurs, l'ambiance est extraordinaire. Les passages de combat, je suis beaucoup plus nuancé, les combats, c'est comme je disais, c'est dans des arènes, ils vont jouer sur de la composition de monstres, ils vont s'intensifier en complexité au fur et à mesure du jeu. On a peut-être 7 ou 8 monstres différents qui vont apparaître. Alors en général, c'est par 2 vagues ou 3 vagues dans les arènes. C'est pas très intéressant, ces combats-là. C'est très brouillon, la caméra est trop proche du personnage, elle a du mal à on se prend des attaques sans les avoir vues du tout, sans capacité de les intercepter. Les patterns des ennemis sont pas très visibles. On y arrive, c'est jamais très, très dur. Il y a toujours un truc qui permet de recharger quasiment toute sa vie en plein combat. Si on le priorise à peu près ses cibles, enfin je veux dire voilà, si vous avez fait un beat'em all dans votre vie, vous en sortirez, encore une fois, c'est pas challenger, hein, c'est un peu. Il y a quand même un côté frustrant dans le sens où vraiment je dis c'est pas. Là pour le coup c'est pas plaisant. C'est-à-dire que non seulement c'est même parfois un peu désagréable, du fait du côté brouillon de la chose, et vous savez pas trop ce que vous faites. Vous avez des pouvoirs qui vous permettent de faire des espèces de micro-combos, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de très poussé et de très intéressant. Et c'est bien dommage parce que le jeu, du coup, vous en fait plein, et à la fin, vraiment, quand je voyais que j'avais une zone de combat, je soufflais. En mode, bon, ok, alors l'avantage c'est que ça dure pas longtemps. Voilà, le jeu d'un point de vue gameplay, comme je dis, ta série, dans les pouvoirs, vous allez même presque, on va retrouver des pouvoirs à la Jedi, où on va pouvoir pousser les objets, les attirer à soi ou les repousser. On va pouvoir prendre le contrôle d'une petite marionnette qu'on va amener dans des passages où nous on peut pas rentrer. Tout ça c'est des bonnes idées sur le papier, qui sont à mon avis sous-exploitées, mais qui font qu'on a une variété comme ça de gameplay dans l'exploration, qui fait qu'on passe tout le temps d'un truc à l'autre, encore une fois, qui participe au fait que ça n'est jamais désagréable et qu'on n'a pas l'impression d'être dans de la répétition ad nauseum de phase de plateforme incongrue. Enfin, voilà. On a toujours un petit truc qui fait que c'est sympa de continuer. La narration du jeu, c'est son point fort à mon avis, enfin c'est pas le point fort dans la façon dont il le fait, mais dans ce qu'il vous raconte, on est sur, donc, comme je disais, sur le lore du Bayou, avec des contes assez, assez sombres, des histoires qui abordent des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans les jeux vidéo, ou pas trop, en tout cas pas comme ça. On va être sur de l'abus, abus parental, en fait c'est plusieurs histoires qui vous donnent chacune un niveau et un boss, au fur et à mesure vous vous enfoncez dans l'irréalité, en fait, de cette quête. Et elles sont toutes tristes, elles sont toutes assez, assez bien faites et assez bien tournées, avec souvent un petit twist intéressant, et qui vous fait dire « Ah, ok, le jeu va dans ce côté-là ». Et donc votre but en tant que, parce que je l'ai pas dit, mais l'héroïne donc est une tisseuse, elle retisse la réalité, et donc les nœuds de la réalité qui sont formés autour de la souffrance des gens, elle permet de retisser ça, de libérer la souffrance, et donc de purifier le monde. Bon, ça en soi, je trouve le concept vachement bien, l'histoire est intéressante. Je trouve juste dommage que la seule solution qui nous est donnée pour faire ça, c'est soit des combats. Bon, c'est vraiment, je trouve que là, il y a un souci entre ce qu'on vous demande de faire et ce que le jeu vous raconte, et surtout ce qu'il vous dit. Comme je disais, donc vous allez avoir ces petites phases qui s'enchaînent, et à chaque niveau, bien sûr, vous avez un boss. Les boss sont à 90% inintéressants, frustrants. Frustrants parce qu'ils ont des attaques d'une violence monstrueuse, et je vous assure, il y en a certains, même après l'avoir battu, je n'ai toujours pas compris comment esquiver son attaque. Et c'est pas grave parce que le jeu vous permet de les tanker. Comme dans beaucoup de jeux de ce genre-là, c'est-à-dire que l'équilibrage a été trouvé, plutôt que de rendre les patterns d'attaque lisibles, ce qu'on fait, c'est que le boss a trois phases. Si vous mourrez dans une des trois, ben vous recommencez que à partir de cette phase-là. Et il y a toujours un point de vie, un point pour se redonner de la vie. Donc en gros, vous pouvez de toute façon grind le boss en l'affrontant. En passant une phase et en crevant juste après, vous reviendrez full life et vous pourrez le tanker la phase suivante. Voilà. C'est pas très glorieux, c'est pas très intéressant. C'est dommage parce que je pense que c'est vraiment une question de lisibilité de l'action, et ça aurait pu être fait correctement. Mais là, vraiment, non, ils se sont ratés, ça va pas, les boss ne vont pas. Et c'est bien là tout le souci, en fait, du jeu. Ce que je vous disais, c'est que, en gros, vous avez des phases qui ne sont pas désagréables, mais qui sont jamais, qui n'offrent jamais vraiment de challenge ou de choses novatrices. Quelques phases un peu désagréables qui sont les boss et les combats. Et cette narration qui, par contre, elle vous porte, cette musique qui tente des choses, alors j'en avais parlé, qui tente des choses vraiment extraordinaires. La musique de ce jeu-là est vraiment folle. Olivier de Rivière se permet même de faire des espèces de... C'est un spécialiste de la musique dynamique, et là, il se permet de faire des chants que je suspecte d'être lié, c'est-à-dire que la musique s'enchaîne et les couplets s'enchaînent en fonction de votre position dans le niveau, pour vous raconter votre histoire, parce que c'est pas possible autrement. C'est-à-dire, en termes de timing, y a une chanson qui se déclenche avec des paroles et qui avance en même temps que vous sur les plateformes. Je suis persuadé que c'est dynamique et que c'est pas juste ce serait impossible à calibrer en fonction des joueurs et de leur progression, sinon. Bref, ça c'est un travail absolument remarquable, et j'écoute encore régulièrement la BO un mois après. Parce que c'est du blues jazzy incroyable, vraiment incroyable. Enfin voilà, c'est absolument magnifique. Graphiquement, j'en ai parlé, c'est vraiment un jeu sur l'Unreal Engine 5 avec un côté un peu pâte à modeler, dessin un peu à l'arcane, si vous voyez. Le studio Fortiche, on retrouve un peu ce côté-là avec où les animations sont volontairement un petit peu saccadées pour donner cet effet dessin animé et fait à la main, et avec une richesse d'un point de vue d'environnement, d'ambiance, d'effet de fumée, de particules. Vraiment une patte artistique absolument phénoménale qui fait que le jeu est vraiment intéressant. Et encore une fois, ses thématiques et son ambiance et son univers qui sont vraiment plaisants à explorer. Alors j'y ai joué en VO, la VF, j'ai voulu voir, j'ai été très déçu, mais pas par la qualité de la VF en soi, c'est qu'on perd le côté argotique et prononciation, accent louisianien, enfin, ou du moins du sud des États-Unis, dans tous les dialogues, et cet argot qui participait normalement à l'ambiance quand le personnage se parle à elle-même, ou les échanges qu'il y a avec les autres personnages. La VF forcément ne peut pas retranscrire ça, ou ça aurait été Michel Lebesgue, et on ne veut pas ça, donc tant pis pour ça, c'est dommage. Si vous avez la possibilité, je vous envie en VO. Si vous avez un bon niveau d'anglais, parce que du coup c'est difficile de suivre les sous-titres qui ont été l'utilisation d'argot des fois rend la synchro compliquée, entre les sous-titres et ce que vous entendez à l'écran. Voilà, c'est un jeu dont le twist de fin m'a déplu, c'est un jeu sur lequel je n'ai pas décroché. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, je dis que les combats m'ont pas plu, que les boss étaient relous, que fondamentalement le jeu ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts et que j'ai pas trouvé ça transcendant. Et pourtant, je suis allé jusqu'à la fin sans déplaisir, et en ayant envie de voir la fin, en fait, voir où le jeu m'amenait et ce qu'il me racontait. Il échoue, à mon avis, là où des Uncharted arrivent. Uncharted a une cohérence entre ce qu'il vous fait, les scènes de, entre guillemets, d'exploration, plateforme, où sont là pour établir des dialogues entre plusieurs personnages, et donc sont en permanence animés. Et même si vous ne faites pas grand-chose d'un point de vue gameplay, on en a plein les mirettes, et on a l'histoire qui se déroule. Là, le jeu a beaucoup plus de mal à vous faire ça, puisque vous êtes seul 95% du temps. Pas tout le temps d'ailleurs dans le jeu, c'est juste qu'on croise des PNJ de temps en temps. Et puis bon, les phases de combat d'Uncharted ne sont pas folles. J'ai rejoué à Uncharted 4 d'ailleurs juste après pour voir si je me trompais pas, mais non, c'est bien ça. Uncharted, d'un point de vue gameplay, est un jeu que je trouve pas ouf dans ses phases, mais pourtant c'est l'agrégat de tout ça et le fait qu'il n'arrête pas de passer d'une chose à l'autre qui fait que le jeu est extraordinaire. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mécanique. Je pouvais vous prédire l'évolution du niveau avant qu'elle ait lieu, puisque je savais qu'en gros, un niveau, c'était des phases d'exploration, 3-4 zones de combat, une phase de poursuite et un boss. Et il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Et du coup, ce côté mécanique, forcément, nuit à la. Au côté vraiment appréciable et découvert du jeu et ambiance, il n'y a pas de surprise. Voilà. Il y a une surprise sur l'histoire, il y a une surprise sur ce qu'on va vous montrer, sur la façon dont c'est montré, mais il n'y a pas vrai. Mais d'un point de vue gameplay, il n'y en a jamais. Donc si je devais le comparer, ce serait pas avec Uncharted, ce serait plutôt avec Prince of Persia, mais pas le Prince of Persia qu'on connaît tous, alors les dernières versions, ou les Sands of Time, etc., c'est-à-dire les bons, je le comparais avec celui de 2008, qui était un jeu qui, de la même façon, essayait quelque chose, alors avec un peu plus d'ouverture dans le monde ouvert, etc., mais péché par son côté non pas d'enjeu en fait. Des combats insipides et sans enjeu et pas très lisibles, de la plateforme. Enfin voilà, on est vraiment sur ce même côté-là. Et ça m'a rappelé en y jouant, il y avait un autre jeu dont j'avais parlé dans un patent de jouer précédent, qui était Kaina la Prophétie, qui était un jeu pareil, où on retrouvait ce côté bon élève, où tout est bien fait. Et pourtant le jeu ne m'avait pas plu. Il m'avait pas plu. Alors Kaina la Prophétie m'avait pas plu parce que je pense qu'il était supérieur d'un point de vue gameplay à Souls of Midnight, mais son histoire à base de petites créatures mignonnes qu'on libère, etc., ne m'avait pas accroché. Dans Souls of Midnight, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus profondes, avec vraiment des passages touchants, et qui fait que ok, c'est très light d'un point de vue jeu, mais ce qu'on me raconte est très bien. Et surtout, le jeu se permet de ne pas être trop long. C'est un jeu qui dure 10 heures, 10-12 heures si vraiment vous poussez à fond, et c'est largement suffisant, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. On n'a pas le temps, on a juste le temps à la fin, je commençais à me dire, fallait que ça se termine, ça s'est terminé. Ça s'est pas terminé comme j'aurais voulu, mais ça s'est terminé. Et voilà, on est face à un jeu, je pense que c'était pas l'idée, à la base, qu'il voulait faire. Il voulait pas faire ce jeu-là. Je peux me tromper, hein, mais vraiment, dans ce que j'ai vu des trailers et de ce qu'ils ont commencé à construire d'un point de vue gameplay, je pense qu'ils voulaient partir sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Peut-être plus Metroidvania, et que petit à petit, ils se sont recentrés pour donner quelque chose de beaucoup plus fermé et presque fini en mode, bon, ben, on doit livrer quelque chose, quoi. Il y a certaines scènes, comme les scènes de poursuite, qui font vraiment penser à ça, où vraiment, on rajoute un truc à la fin des niveaux pour vous faire enchaîner, mettre un petit pic de tension avant quelque chose, avant une relief. Je sais pas. Je saurais jamais d'ailleurs si c'était l'idée du studio au départ. Mais je pense que vraiment c'est un projet qui a été, alors peut-être pour des questions où ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient, ou budgétaire, mais je pense que c'est un projet qui a été réduit en ambition au fur et à mesure pour arriver à livrer quelque chose. Ce qu'ils livrent, fondamentalement, me fait penser à du Uncharted 1 ou Prince of Persia 2008. On n'est pas dans un mauvais jeu. C'est même plutôt des bons jeux. Mais on est sur cette espèce d'entre-deux qui, en 2025, du coup, 2026 quand j'y joue, c'est un peu léger. Y a pas de challenge, y a pas vraiment d'ambition d'un point de vue gameplay. Et puis surtout, pour moi, il y a quand même vraiment une incohérence entre ce que le jeu vous fait faire et ce qu'il vous raconte. Encore une fois, je trouve ça vraiment dommage que la seule façon que le jeu ait de vous faire soulager les souffrances du monde, c'est en vous en taper des monstres. Je trouve ça un peu dommage, surtout quand on voit la finesse de certaines histoires et comment elles sont amenées et racontées. Pas toutes, il y en a une ou deux qui sont un peu plus que j'ai pas bien compris la transition ou ce que je voulais faire, mais d'une manière générale, dans cette narration, il est vraiment vraiment intéressant et vraiment touchant, et avec un côté exploration des côtés sombres de l'humain et de ce que engendre la souffrance et de la pression sociale, que j'ai trouvé vachement bien. Vous en faites ce que vous voulez de cette critique des... Je sais pas si vous avez envie de jouer au jeu ou pas. Je sais pas si je le recommande ou pas, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de voir. Moi, vraiment, pour l'ambiance, le graphisme, la musique, cette partie-là, ce que le jeu me raconte, j'ai adoré. À vous de voir. Souls of Midnight, en promo à 20€, franchement, ça peut vous passer des bons moments. Faut juste savoir qu'on passera pas, on s'extasiera pas manette en main, et on n'est pas sur du gameplay très poussé. Voilà. C'était Bruno. Écoutez, c'est mon deuxième épisode en solo. Je sais pas combien il y en aura. Peut-être que Thomas revient le mois prochain. Peut-être pas. On verra. En tout cas, moi, je prends beaucoup plaisir à le faire. J'ai plein de trucs à aborder encore sur ce que j'ai joué à 2025. Et je vous tiens au courant. Et encore une fois, meilleurs vœux. Je suis dans les temps. Hein, normalement, l'épisode sera validé sur janvier. Probablement le 31, je me connais. Mais voilà. À bientôt!
production T et B.